Mes plus anciens souvenirs sont teintés d'une peur des cauchemars. J'avais peur d'être seul et peur du noir, et peur de m'endormir à cause de rêves où une horreur surnaturelle semblait toujours sur le point de prendre forme. J'avais peur qu'un jour, en me réveillant, le rêve ne fût pas parti. Je me souviens avoir entendu une bonne parler d'opium et dire qu'en fumer donne de beaux rêves. Et je me dis, je fumerai de l'opium quand je serai grand.
Well, George, been locked for 3 hours solid. I think they're using it for the operating room.
Bonjour Gérard Georges Lemaire.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes avec nous depuis Venise où il fait très 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 moche, vous m'avez dit tout à l'heure. Hein.
Non, c'est pas exactement le terme, c'est l'apocalypse.
C'est l'apocalypse, et ben, ça tombe bien justement, parce qu'on va parler de Burroughs, on n'est pas loin de l'apocalypse, jamais loin de l'apocalypse avec lui. Je fumerai de l'opium quand je serai grand, il le dit au début de Junkie, on peut dire qu'il a tenu parole. Hein.
Absolument, mais il faut prendre la chose d'une certaine manière. C'est-à-dire que Burroughs est un homme qui n'est pas allé vers la drogue en des termes expérimentaux, comme a pu le faire Junger en son temps, ou même on l'a fait après Henri Michaux, mais est tombé dans la marmite, vraiment. L'histoire de Burroughs, en fait, est une lente et inexorable descente aux enfers, qui va se transformer en un travail d'écriture qui sera, au fond, sa sauvegarde.
Alors justement, c'est une descente aux enfers, et en même temps, on se demande s'il n'est pas parti des enfers elle-même pour, et s'il n'a pas essayé d'en sortir en prenant l'opium qui, de lui-même, l'y a conduit de nouveau. Une question sur l'écriture de Burroughs. On va entendre des textes de Burroughs, lus par Georges Claes, d'autres textes, peut-être même du Ginsberg un peu plus tard. En tout cas, on va rester dans cette atmosphère de la Beat Generation aujourd'hui avec vous. Juste un point, est-ce qu'on peut considérer que l'aspect dissolu, désordonné, fragmentaire de son écriture est le résultat de la prise de la drogue, ou si au contraire ça correspond finalement à des exigences stylistiques dont l'opium serait l'un des symptômes?
Oui, l'opium, l'héroïde et d'autres produits. Hein. Et ce sera surtout l'héroïde d'ailleurs qui sera la cause de la chute. Mais en fait, il faut penser que ce sont les deux choses en même temps. Je pense que la drogue lui a donné une vision du monde, qui est devenue une vision inexorable et permanente. Et ensuite, lui, il est tenté de retranscrire cet univers. C'est ce qui rend à l'œuvre de Burroughs son caractère inimitable et qui est puissant. Le Festin nu est une œuvre absolument unique en son genre. Rien n'est écrit tel sur l'expérience de la drogue, mais aussi rien n'est écrit aussi beau sur le parcours intérieur d'un homme qui va jusqu'au bout de ses fantasmes, de ses obsessions, ses fantasmagories, et voilà.
Est-ce qu'on peut parler chez Burroughs d'une autobiographie, ou est-ce qu'il y a chez lui une opération, alors là qui pour le coup serait, en un sens l'expression de la prise de drogue, une opération de distanciation entre l'auteur du livre, le narrateur, la première personne du singulier qu'il emploie? Oui. Est-ce finalement la même personne? Est-ce qu'on peut tenir pour, et je me méfie de ce mot, mais pour véridique au fond ce que dit Burroughs, ou est-ce que ça n'est pas le cas, ou est-ce que tout simplement il n'y a aucun intérêt à se poser une telle question, et finalement, est-ce qu'il ne faut pas lire les textes en eux-mêmes, indépendamment de son auteur?
Non, mais vous posez plusieurs questions en même temps, et c'est assez passionnant, mais en fait, il faut prendre les choses une par une.
Allez-y.
Il y a d'abord l'expérience de la drogue. L'expérience de la drogue fait que Burroughs, en fait, va écrire une autobiographie qui s'est appelée Junkie, qui veut dire camé, plus ou moins, bon, et qui est une tentative effectivement de distanciation, tentative d'analyse de ce qu'est la vie d'un drogué, de la manière quasiment objective, hein, d'une façon très froide, très distanciée. Ça, c'est la première étape. Et il va faire d'ailleurs un second livre qui ne paraîtra pas en son temps, qui s'appelle Queer sur l'expérience homosexuelle, où il va tenter la même chose. Ensuite, quand il va quitter le continent américain et aller au Maroc, là, il va y commencer ce grand livre, cette grande aventure qu'est le Festin Nu, et qui se produit au moment où il est au plus bas possible, au plus bas imaginable, où c'est devenu un déchet humain. Et ça va être une lente remontée de ces tréfonds de l'esprit et du corps aussi, puisque le corps souffre dans cette affaire, où il va commencer là à tenter de raconter ce qu'il est, lui, de l'intérieur. Donc, bon, puis le livre ensuite va être écrit plusieurs fois, réécrit, arrangé par ses amis, ça on en parlera peut-être, peu importe. Mais c'est vraiment l'histoire d'une expérience vécue avec cette chose particulière qui est l'écriture, qui fait que il nous transmet une expérience à travers ce moyen, qui est un moyen, malgré tout, là aussi, comment dire, très ambigu, c'est-à-dire en fait à la fois de prendre une certaine distance, puisqu'il va tenter de cerner les traits principaux de son expérience, et en même temps de nous y plonger aussi par l'imaginaire.
Alors rappelons au moins Toxicophile de nos auditeurs, qui était un
Oui,
peu Burroughs, hein, il est connu
bien
pour être
sûr.
l'un des trois fondateurs de la Beat Generation avec Kerouac et Ginsberg.
Oui.
Il forme ce qu'on a appelé les Three Angels, hein, les trois
Oui.
anges. Il était homosexuel, toxicomane. On a dit qu'il était assassin, l'ange noir, c'est son surnom, choque et
Oui.
bouleverse les codes sociaux, les codes littéraires. Il abolit la narration conventionnelle en la coupant, de sorte qu'il est assez difficile parfois de le lire et qu'il y a à l'intérieur de ces textes, alors là pour le coup c'est le lecteur profane qui parle,
Oui.
À l'intérieur de ces textes, de passages extrêmement difficiles, tant par le récit que par la façon dont il met en scène ce qu'il raconte, il y a à l'intérieur de ça de véritables éclaircies. D'un noir parfaitement
Oui.
lumineux, Gérard-Georges Lemaire.
Oui, alors écoutez, il y a toute une légende, hein, autour de Burroughs. D'abord, la légende qu'il a créée lui-même, de ce petit groupe d'amis, parce qu'en fait, la Beat Generation a été créée plus tard par un journaliste, ami de Kerouac. Bon, ça, c'est une autre affaire et peu importe d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'est un groupe d'amis qui se sont connus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Burroughs a été l'aîné d'entre eux, Ginsberg et Kerouac, eux, étaient encore de tout jeunes étudiants. Il va être un peu leur maître à penser, en tout cas leur éducateur, si on peut employer encore ce terme, leur pédagogue, en leur faisant découvrir certains auteurs européens, par exemple Kafka ou Dostoïevski. Mais il va aussi les introduire dans un monde, ou plutôt un demi-monde, ou un monde parallèle de personnes assez louches, de petits vendeurs de drogue, de petits malfrats, parce que Burroughs avait une fascination extrême pour cet univers-là.
Et ben
Et en
justement,
plus, il la fréquentait pour la drogue.
alors justement, c'est l'univers dont vous parlez, on va en avoir un aperçu. Vous avez cité le Festin nu tout à l'heure. Voici
Oui.
l'une de ces sombres éclaircies qu'on trouve dans l'œuvre de Burroughs. C'est Georges Clèss qui la lit. Écoutez.
Les gamins qui se travaillent du poignet dans les cabinets de l'école se prennent pour des espions de la galaxie X, se retrouvent vieillis et minables dans une boîte de troisième ordre, sirotant du vinaigre de vin et mâchonnant des citrons pour faire grincer le saxo ténor. Un arabe, dernier cri, en lunettes fumées bleues, qu'on soupçonne d'être un émissionniste ennemi. Voilà le réseau international des camés, captant 5 sur 5 la même gamme de foutres rancis, se garrottant le bras sur un lit de garni, frissonnant dans l'aube malade, les vieux drossards qui pompent la noire à bout de pipe au fond d'une blanchisserie chinoise. Bébé la tristesse qui crève d'un abus de manque ou d'une cure coupe-souffle en Arabie, à Paris, à Mexico, New York ou la Nouvelle-Orléans. Les vivants et les morts, tremblant de carence ou branlotant dans les vapes, ceux qui y piquent et ceux qui sont en renonce et ceux qui dégringolent en revenez-y, tous branchés sur le bip-bip de la cam pendant que le contact se gave de riz à la cantonaise dans une gargote de la Calle Dolores. trempe son biscuit dans le café crème d'un snack bar de la chaîne Bickford, se cavale à travers Exchange Place avec une meute de flicards des stupes glapissant à ses trousses. Les paludéens du monde entier s'unissent en un magma de protoplasme flageolant. La terreur scelle le conte cunéiforme. Des émeutiers hilars forniquent au hurlement cadencé d'un nègre en train de griller à l'essence. Tu as des courbatures, vieux ?
Question de Géraldine Mosna-Savoie.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'expérience de la drogue qui fonde l'œuvre de Burroughs. Et j'aimerais savoir, en fait, dans quelle mesure le lecteur de Burroughs peut-il dépasser le cadre intérieur, le cadre de l'expérience intérieure, pour reprendre les termes de Bataille, que Burroughs nous raconte. En fait, vraiment, ma question, c'est comment Burroughs amène le lecteur dans son univers, dans un univers où finalement il nous fait croire que ce sommes nous les intoxiqués, alors que c'est lui-même qui est toxicomane. Comment le lecteur lambda peut pénétrer dans cet univers-là ?
Sans absorption de drogues illicites avant la lecture.
Absolument.
Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la lecture de Burroughs conduise à l'absorption de la drogue. Je ne suis pas sûr. Il arrive qu'il en dissuade.
Non.
Allez-y.
Non, plutôt, oui, je crois que ça serait même un avertissement. Hein. Tout le problème de Burroughs et de toute ambiguïté d'ailleurs de l'expérience de la drogue, c'est celle-là. C'est d'un côté la personne qui est prise par la drogue, qui est intoxiquée, va se faire le propagandiste de la chose parce qu'elle en vit. Elle ne peut pas vivre autrement. Et ensuite, elle va également en dire beaucoup de mal, parce qu'elle sait très bien où ça mène. Elle sait très bien que c'est une marche, une lente marche vers l'autodestruction. Alors, dans le cas de Burroughs, il y a quelque chose d'assez fascinant. Mais au fond, si vous y réfléchissez deux secondes avec moi, c'est un peu comme lire l'œuvre de Dante. Qu'est-ce que fait Dante ? Il nous embête dans les enfers avec Virgile. Très bien. Et là, on découvre un monde absolument abominable qui serait alors le monde théologique d'après la mort, où le bon grain est séparé de l'ivraie et les personnes mauvaises vont connaître des tourments éternels épouvantables. Eh bien, ce que raconte Moreau, c'est ça. C'est le tourment, alors pas éternel, le tourment temporel de la personne qui est prisonnière de substances toxiques et qui, en plus, va non seulement voir son corps se transformer totalement, mais va aussi voir son univers mental, son univers visuel également se transformer.
Donc, allez-y.
Non, alors juste une chose pour conclure ceci, c'est que au fond, il va nous amener à voir ce qu'une personne qui ne connaît pas cette expérience ne peut pas voir, ne peut pas éprouver. Hein, il va, donc le livre était, on parle en particulier du Festin nu, c'est un livre extrêmement dur, presque avec une partie un peu effrayante au fond. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait sentir, éprouver de l'intérieur ce que peut être cette affaire-là et tout ce qu'elle implique.
On retrouve avec ce que vous dites, Gérard-Georges Lemaire, la difficulté propre à toute littérature éthylique finalement, puisque, et vous avez cité Dante, les premiers vers de l'enfer, la voie droite s'était perdue. Hein.
Oui.
Dante, dont on aurait pu parler, qu'on aurait dû citer quand on a parlé de Malcolm Lowry lundi dernier,
oui.
Dante qu'on aurait pu citer également quand on a enregistré l'émission qui passera demain sur Baudelaire, il y a constamment avec la littérature éthylique une difficulté pour celui qui n'est tout simplement pas initié à entrer dans un lexique, dans un vocabulaire, dans des réflexes ou dans des métaphores ou dans un décousu dont par définition il n'est pas familier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de alors profondément hermétique précisément dans ce genre de littérature ou de démarche ?
Ben écoutez, il y avait quelque chose de profondément hermétique dans l'œuvre de Dante, comme vous le savez, qui est extrêmement complexe et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à lire, non pas parce que la langue est difficile, parce que c'est quand même du vieil italien, du toscan du Moyen-Âge, mais qui peut encore se lire aujourd'hui, malgré tout, avec un petit effort, mais c'est parce que l'univers de Dante et puis le nôtre est de loin. On comprend simplement les grands mécanismes, l'enfer, le purgatoire, le paradis, voilà. En ce qui concerne Moreau, c'est tout à fait autre chose. C'est une expérience moderne, c'est une expérience de personnes qui ont vécu dans la seconde partie, enfin l'essentiel de leur histoire, dans la seconde partie du XXe siècle, et qui nous racontent une autre forme d'enfer. Et un enfer qui prend d'ailleurs chez Moreau aussi une dimension théologique. Moreau est américain, vous le savez bien. Mm-hmm. Il est d'une très bonne famille. C'est un WASP, c'est un monsieur qui vient du sud-ouest des États-Unis, de Saint-Louis dans le Missouri, qui a eu de très bonne éducation, qui était d'une bonne famille, comme l'on dit.
On voit où ça mène.
On voit Samet qui a voyagé en Europe. Il semblerait qu'il lui fait une psychanalyse à Vienne. Alors ça, c'est ce qu'il a raconté. On n'en est pas sûr, mais en tout cas, il est allé en Europe. Il s'est même marié en Yougoslavie. Donc, c'est une série d'aventures assez étranges. Peu importe. Mais ce qui importe pour nous, d'ailleurs, peu importe si tout ça est vrai ou pas vrai, ce qui nous intéresse, au fond, ce qu'est devenu le mythe de l'écrivain.
Mais je n'arrive pas à savoir que, comme vous êtes manifestement un tout petit peu enrhumé, Gérard-Georges Lemaire, je ne sais pas si vous dites le mythe ou le beat de l'écrivain, en l'occurrence.
Non, je ne serais pas... Non, le beat, excusez-moi, je ne suis pas enrhumé, j'ai une sinusite chronique, et c'est abominable, et en plus, ici, il pleut à verse, pas dans le studio, hein.
J'entends
mais,
bien.
mais je suis arrivé, quand on dit trempé, le bois est faible.
D'accord.
Voilà. Excusez-moi.
Mais je vous en prie, au contraire. Non, au contraire. On reste justement sur cette folie ou cette difficulté, la difficulté de restituer la folie dont on est en un sens l'interprète, dont l'écrivain est l'interprète. On va entendre tout de suite, notamment, non pas Burroughs lui-même, mais quelqu'un lire un texte de Burroughs parlant des rêves et parler avec vous ensuite, Gérard-Georges Lemaire, du statut de l'onirisme, notamment dans Mon éducation de Burroughs. Écoutez.
Très.
Dream. Oh, this is an old poem. Old poem. Oh, so this is not new, but it's written now. Dream. Last night I drove a car, not driving a car, not owning a car. A buffoon at the wheel. Couldn't tell brake from accelerator. Drove 100 miles per hour. Knocked down people I loved. At night, I slept in the back seat, excited about my new life. Yeah, that's a weirdo. This one I didn't write in. Now the last one, right? Oh. I'd love to shove a rose up your heart.
Baboon, blue-eyes, baboon, high-class baboon.
Gérard-Georges Lemaire est l'invité des Nouveaux Chemins ce mercredi. Gérard-Georges Lemaire, qui est notamment l'auteur de Burroughs aux éditions Artefact, paru en 86, et The Beat Generation, une anthologie qu'il a réalisée pour les éditions Flammarion, paru en 2004. Gérard-Georges Lemaire, quelle est la part du rêve dans l'œuvre, dans le style surtout de Burroughs? Quelle utilisation fait-il du rêve? En France, par exemple, Michel Léris a raconté toutes ses nuits, ou quasiment. La narration du rêve est véritablement à la charnière de ce point qu'on essaie de saisir depuis qu'on travaille sur les écrivains et la drogue au Nouveau Chemin, c'est-à-dire ce moment où on est assez fou pour voir ce que d'autres ne voient pas et assez lucide pour le restituer. Quel usage fait-il des rêves? Comment les raconte-t-il et comment les accole-t-il les uns aux autres?
Alors, c'est une question pas tout à fait facile que vous posez, parce que dans l'expérience de la drogue, il y a plusieurs éléments qui se confondent, hein, qui s'entremêlent plutôt, qui ne se confondent pas totalement. Il y a la réalité qui est toujours là, qui est omniprésente, bien sûr. Il y a la fantasmagorie, puisque la drogue provoque des visions, des hallucinations, des choses étranges, des perceptions du monde complètement différentes. Et puis, effectivement, il y a le rêve. Et quand vous posiez la question tout à l'heure de l'hermétisme, de la chose, il n'y a rien d'hermétique. Hein, Dante, c'est pour ça que je prends l'exemple de Dante, parce que Dante est beaucoup plus hermétique sur des références théologiques extrêmement subtiles, des références aussi à la politique de son temps, des références à son histoire personnelle que nous connaissons qu'en partie, etc., etc. Alors que Moros lui parle de son expérience à lui, d'un homme qui connaît cette vie qui malheureusement fait partie de cette sous-société badie qui est celle des drogués et qui a eu la force et qui a été quasiment le seul à être capable de la restituer dans son intégralité et dans sa aussi dans son horreur mais aussi dans sa beauté. Donc le rêve intervient comme une part de cette vérité. Alors j'allais dire presque révélé, c'est un terme très chrétien, et ça serait un peu excessif, mais s'il y a une sorte de révélation en tout cas d'un vécu, hein, d'un vécu qui est un vécu bien sûr, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons de ce que nous cherchons à créer comme réalité, parce que comme vous le savez, la réalité est une construction mentale. De l'homme.
Et j'allais dire, il en va de même des œuvres de Burroughs dont les méthodes de construction sont extrêmement complexes. Il met en pratique des systèmes qu'il semble découvrir d'ailleurs par hasard. Géraldine Mosna-Savoie, qui est avec nous en studio et qui a énormément travaillé pour préparer cette émission en votre compagnie, Gérard-Georges Lemaire, vous pose une question tout de suite.
Oui, sur l'expérience du rêve, c'est un peu comme l'expérience de la drogue. En fait, ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle construit comme réalité, ce qu'elle cherche à dire aussi au lecteur, c'est qu'on vit dans un monde qui est construit, où finalement on est en pleine hallucination, on est en plein rêve, et on est nous-mêmes infestés par diverses maladies, le virus. Et justement, comment l'expérience de la drogue, du rêve, nous révèle ça?
Voilà, c'est très amusant, Géraldine, votre question, parce que j'allais justement y venir. C'était vraiment ça le but de ma petite digression, c'était d'expliquer. Et c'est pour ça que j'appelle le terme de révélation. La drogue a beaucoup de défauts, parce qu'elle nous met dans un état de conditionnement total, mais permet aussi de révéler ce conditionnement. Et Burroughs va en tirer une sorte de philosophie tout à fait originale, en montrant que nous sommes tous prisonniers, drogués ou non drogués, nous sommes tous prisonniers du langage. Hein, et que nous sommes prisonniers aussi d'une certaine logique, d'un mode de pensée, d'un mode de représentation, et que nous sommes aussi la proie d'un certain nombre, parce que là entre aussi la paranoïa très forte que peut engendrer la drogue, bien entendu, mais qui est une paranoïa qui est aussi celle qu'on trouve chez Orwell. C'est vraiment l'histoire de Big Brother qui vient sous une autre forme, c'est-à-dire que nous sommes prisonniers de groupes de pression, de lobby, comme diraient les Américains, qui veulent nous asservir. Hein. Et une partie de l'œuvre de Burroughs après le Festin nu va être l'histoire d'une guerre de science-fiction entre des forces du bien et des forces du mal. Alors là, ça devient très américain, très religieux, mais aussi très schématique. Pour le point de départ. Mais ensuite, on s'aperçoit que on ne sait pas très bien qui appartient au camp du mal. C'est pas la guerre des étoiles. Hein. On ne sait pas qui appartient au camp du mal, qui appartient au camp du bien. En fait, tout le monde est interchangeable, tout le monde est androgyne. Androgyne sur le plan sexuel, mais androgyne aussi sur le plan cérébral.
De toute façon, Gérard-Georges Lemaire, vous parlez de guerre, on pourrait peut-être davantage encore parler de chaos. Une revendication du chaos, presque.
Oui, tout à fait.
Une guerre sans belligérants, ou plus exactement, dont les belligérants sont également les agressés, et ainsi de suite.
Voilà, exactement. C'est une guerre avec beaucoup de belligérants, mais on ne sait pas qui est l'attaquant et l'attaqué à la fin. On ne sait pas exactement les tenants et aboutissants de cette guerre, et aussi les dimensions morales, parce que je vous le dis, ça part de cette base morale américaine, parce que l'Amérique a une constitution que tout le monde connaît et qui est basée sur un fait moral et religieux. Oui, le bonheur, mais aussi la croyance en Dieu qui fait partie de la Constitution américaine. Donc, et Burroughs a été éduqué de cette façon-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un monde manichéen, et Burroughs nous met en scène un monde manichéen. Sauf que ce monde manichéen est devenu halluciné et onirique. C'est-à-dire qu'il fait entrer à la fois l'expérience vécue de la drogue, qui est son expérience journalière pendant une certaine période, et ensuite, ses rêves qui alimentent un imaginaire absolument incroyable, qui provoque ces scènes absolument géniales, parfois, ou des scènes parfois d'une sexualité délirante. C'est le dernier écrivain, à mon sens, qui a pensé quelque chose même de ce point de vue-là. Sauf que ce sont des scènes homosexuelles, bien entendu, mais il a inventé, disons, une vision de la sexualité jusqu'alors qui n'avait jamais été écrite.
La drogue sacrée, qui ne crée pas de suggestion, pas d'esclavage, est dépeinte comme une merveilleuse vague d'égout. Mais la couleur disparaît et on retrouve la cam ordinaire, la cam de toujours. Souviens-toi, le résultat est toujours le même. La possession absolue devient le seul but et seule la drogue peut rendre chair et os au visage et aux jambes. Cette algèbre gelée qu'on appelait soma avant que l'opium soit venu huiler les rouages du pharisaïsme. L'opium pour faire voir aux camés ce que c'est que la cam. On l'a inventé pour que les gars restent pieds et poings liés à la merci du circuit de la mort. Et on a inventé aussi la dynamique de l'héroïne pour calmer le besoin fondamental, le besoin vital de se fondre dans le blanc du temps. Et puis le singe qui est au fond de l'égout arrache l'âme pour qu'elle serve d'enseigne aux camés tombés au zéro absolu. Et on a inventé la morphine, porteuse du virus total, pour graisser le parcours des camés jusqu'au terminus du temps. Inventé aussi les mots tout bleus du besoin et de la suggestion qu'on épelle pour les débutants et les combines de camé pour assouvir ce besoin vital du temps blanc, du grand égout des fourgueurs du monde entier. Il reste une seule place à l'intérieur, monsieur. Allez-y, cognez sur les touches. Le collectionneur de coups de lame qui est né de cette seringue a oublié quelque chose. Le pharisaïsme nécessaire pour mettre un autre gars sur la voie avant le terminus du temps. Deux choses, Gérard-Georges Lemaire. Est-ce que drogue est chez Burroughs l'autre nom de l'amour? Parce qu'il y a deux drogues ici. Enfin, il y a deux catégories de drogues finalement, et où on oscille entre le paradis et l'enfer. On a parfois l'impression des deux Vénus, hein, la grande Vénus magnifique, et puis la Vénus anadiomène, celle qui est hideusement belle d'un ulcère à l'anus, comme disait Rimbaud. Est-ce qu'il y a cette ambivalence de la drogue, ou est-ce que la drogue est finalement toute mauvaise et désirable à cet égard? Et deuxièmement, est-ce que Burroughs n'était pas un peu parano?
Je pense, je crois, tout drogué qui se respecte est paranoïaque. Mais en tout cas, pour venir à ce que vous venez de dire, c'est très juste. Il y a ces deux aspects. Et ces deux aspects sont simultanés. Le problème, c'est de le restituer sur le plan littéraire. Et c'est ça le fond de la question pour Burroughs. Comment faire pour raconter quelque chose qui est à la fois noir et blanc? Pour dire qu'une chose est belle et épouvantable, pour dire que c'est une expérience extraordinaire et unique, et en même temps une expérience épouvantable. Voilà, c'était la question qu'il s'est posée dans les faits. Il ne s'est pas posé sur le papier comme je vous le raconte, mais dans les faits, et c'est ce qui a créé petit à petit l'histoire de la création du festin nu, qui a été une gestation très longue et complexe. En fait, le festin nu ne s'est d'ailleurs pas appelé comme ça au début. C'est Kerouac qui a donné ce titre au livre, quand il est venu voir Burroughs à Tanger. Avant, le livre s'appelait Interzone. Et il a été d'ailleurs retrouvé, il a été publié par nos soins chez Burroughs il y a quelques années de ça. Et Interzone est un autre livre. Que celui que vous connaissez, vous, qui a été publié chez Gallimard et merveilleusement traduit par le malheureux Kahn, qui a malheureusement disparu aussi peu de temps. C'est une expérience des limites, et c'est une expérience où il y a ces deux aspects, c'est inéluctable, et tout chez lui est binaire et opposé, c'est-à-dire binaire, lié et en même temps conciliable.
Il faut prendre l'expression d'interzone d'ailleurs au sérieux, hein, parce que c'est une interzone morale, c'est une interzone stylistique. On, de la même façon, j'en reviens à ce qu'on disait lundi quand on parlait de Au-dessous du volcan, où le consul, dans un état d'ébriété exceptionnel, ne cesse de lutter pour rester droit. Il y a là encore cette interzone entre la déchéance qui le guette et la tentation corrélative ou simultanée ou contemporaine de cette déchéance tout simplement de marcher droit.
Bien sûr, mais souvenez-vous aussi de l'autre aspect du problème de Morose, c'est la question homosexuelle. La question homosexuelle...
Il le vit comme une transgression.
Et c'était à l'époque une transgression. Il faut vous êtes jeune, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, 60 ans, l'homosexualité a été punie de la peine de mort en Angleterre. En théorie, ça c'est pas fait, mais en tout cas, c'était épée de Damoclès. Aux États-Unis, être homosexuel dans les années 50, ça a été une tare épouvantable. Hein, et si quelqu'un venait à savoir que vous l'étiez, ça a été quelque chose. On peut pas s'imaginer ça aujourd'hui. Et pourtant, ça a été comme ça. Donc, il y avait cet autre aspect de sa vie. Qui venait se rajouter, donc lui se trouvait effectivement dans cette interzone qui était réelle, puisqu'il était à Tanger, en plus qu'il y avait un statut à l'époque spécial, c'était une ville internationale, etc., qui permettait une certaine liberté pour les gens comme lui, qui étaient à la fois étrangers et en situation un peu particulière.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, d'une certaine manière, oui.
Oui, oui, en plus, maintenant, même si Tanger est devenu maintenant une ville vraiment marocaine, entièrement, ça reste une ville un peu spéciale, mais il y avait cette situation légale qui était importante parce que ça lui donnait une certaine latitude, mais il vivait entre la tentation de la drogue qui était permanente et qui était en plus irrésistible, et le fait de rester une personne bien sûr soi, digne et qui pouvait vivre dans la société, ce qui n'était d'ailleurs plus le cas à ce moment-là.
Géraldine Mosna-Savoie.
Donc il y a l'interzone, mais il y a aussi donc à côté la zone de contrôle, et on peut dire que la manière dont Burroughs a réussi à vivre cette ambivalence, il a réussi en étant écrivain, et il a développé toute une théorie autour du statut de l'écrivain qui doit démystifier le langage, qui est le virus ultime grâce auquel règnent les autorités dans la zone de contrôle.
Bien sûr, alors ça, c'est une chose qui va devenir petit à petit sa marotte, mais c'est plus qu'une marotte, hein, c'est vraiment une obsession théorique. Ça devient quelque chose de très fort chez lui, c'est que en partant de l'algèbre du besoin qui est...
On y vient justement à l'algèbre du besoin.
Ah, on en parlera.
Oui, oui.
Donc, qui est vraiment un problème de la dépendance du toxicomane, on passe au problème que vous soulevez, qui est le rôle de l'écrivain. Le rôle de l'écrivain n'est pas simplement de décrire, comme ont pu le faire Michaud ou Junger dont on parlait tout à l'heure, mais de décrire ce qu'est la vie intérieure d'un drogué, pour vous dire les choses simplement, mais également d'avertir des problèmes qui se posent à nos sociétés à l'heure actuelle. Donc, il n'est pas neutre, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui doit agir, pas en termes politiques, parce que Morose n'a jamais été engagé politiquement, même s'il avait des idées assez proches de ses amis, il s'est toujours tenu à l'écart des questions politiques, mais il s'est tout de même engagé, à sa manière, pour que la littérature ne soit pas un simple divertissement ou une pure jouissance ou un pur jeu d'écriture. L'écriture, chez lui, tient un rôle fondamental. C'est un immense créateur, c'est même un des plus grands créateurs du XXe siècle. Mais il a tenu toujours à avoir une vision du monde assez crue, assez violente, assez dure, et pour dénoncer les turpitudes.
Gérard Georges Lemaire, crudité, violence, oui. Déconstruction,
bien sûr.
Sous-tendu en même temps par le goût de la mathématique ou le goût de la structure, un penchant vers l'électronique, alors un électronique un peu renversé, un peu vacillant, double tendance qu'on trouve chez Burroughs dans l'expression que vous avez citée tout à l'heure, qui est peut-être essentielle pour comprendre le sens de son message, je mets le mot entre guillemets ici, je ne sais pas vraiment qui est le destinataire d'un tel message, c'est l'expression d'algèbre du besoin.
Oui, alors le destinataire, c'est vous. Hein.
D'accord, c'est vous aussi. Hein.
Oui, exactement, c'est ce que je voulais dire.
Hein. Alors, j'entends bien, oui. Mais moi, c'est vous, en l'occurrence. Hein. On est tous sous héroïne. Voilà. Alors, l'algèbre du besoin, ça veut dire quoi?
L'algèbre du besoin, ça veut dire tout simplement que, comme le camée, comme le toxicomane, nous sommes tous en proie à des dépendances. Alors, je vous dis les choses très simplement, mais c'est une dépendance... qui n'est pas simple, c'est une dépendance générale à des phénomènes, en particulier de langage. Pourquoi déconstruire, pour employer un terme à la mode, pourquoi déconstruire le roman, comme l'a fait Burroughs? Ça n'a pas été un propos délibéré, comme par exemple les auteurs du nouveau roman français. Mm-hmm. Ce sont des personnes qui ont réfléchi comment faire un roman d'un style nouveau, justement, et qui ne soit plus le roman traditionnel de Balzac ou de Zola. Non, lui, le propos, c'était comment faire un roman qui soit en mesure de dire ce qu'il y avait à dire. Et ce qu'il y avait à dire était en partie un démontage du système.
Mais est-ce que Burroughs, qui se présente comme un appareil d'enregistrement, qui ne prétend imposer ni histoire ni intrigue, c'est lui qui le dit, hein, ni scénario, qui veut juste être dans l'enregistrement direct des différents aspects du processus psychique, s'y prend-il? Est-ce que finalement il n'y a pas derrière le jeu, parce que souvent il emploie la première personne du singulier, n'y a pas derrière le jeu une inversion des rôles? En fait, le jeu serait tellement sous drogue qu'au fond le personnage principal, et qui dit jeu, c'est la drogue elle-même.
Peut-être. Moi, je pense que c'est assez juste ce que vous dites. Je pense qu'il y a, de toute façon, chez le drogué, il y a une duplicité. Hein, il y a deux personnages, de toute façon. Chez la personne, disons, le terme paraît absurde, normal, disons, la personne humaine, voilà, tout simplement. L'être humain, et de l'autre côté, il y a le drogué. Et ces deux personnages sont en dialogue constant et en conflit. Il y en a un qui cherche à attirer l'autre vers lui, et ça ne fonctionne pas, et c'est quelque chose de très pénible. Donc il y a déjà ce dédoublement permanent qui est atroce. Il y a aussi le faire-semblant, c'est-à-dire le fait de croire qu'on peut ne pas montrer qu'on est dans cet état. Mm-hmm. Il y a aussi ça. Donc tout le monde, dans l'œuvre de Burroughs, vit masqué. D'une manière ou d'une autre. Alors, masqué, ça va bien au-delà de ce terme, d'ailleurs, parce que ce sont des métamorphoses, ce sont des transformations abominables. On voit apparaître des insectes qui, en fait, sont des êtres humains, et des êtres humains qui deviennent des choses fantastiques, et ainsi de suite. Donc, c'est un monde de la métamorphose, c'est un vide cauchemardesque. Au fond.
Mais est-ce que ce génie qui est le sien, le vide de cauchemar, hein, dont vous parlez, est-ce que ces métamorphoses, ce talent qu'il a pour les métamorphoses, vient aussi du fait que la drogue est au fond, chez Burroughs, plus encore qu'une façon de subvertir un ordre établi, de contredire des lobbies tout-puissants, de surmonter un esclavage et de verser dans un esclavage pour s'affranchir d'un autre. Est-ce qu'au fond, la drogue n'est pas tout entière la métaphore de la société? Vous avez parlé de dépendance. Oui. Est-ce que finalement, la drogue n'est pas la meilleure image de ce que nous sommes tous? Au fond, la différence entre le drogué et celui qui ne se drogue pas, c'est que le drogué sait au moins lui qu'il est drogué.
Tout à fait, à cette différence près, qu'il ne faut pas prendre l'œuvre de Burroughs comme uniquement comme une entreprise morale qui dirait au lecteur, au fond, vous voyez, la drogue c'est affreux, c'est abominable, faites attention. Non, il y a cette partie-là. Mais il y a aussi l'autre partie qui dit, écoutez, c'est peut-être abominable, mais j'ai vu des choses. C'est un peu, ça me fait penser à la fin d'Apocalypse Now. Je parle du film qui est tiré du livre de Conrad, hein,
oui,
Les Ténèbres.
On est en pleine drogue là, effectivement. Et à tous égards d'ailleurs, au témoignage, au dire même de son réalisateur. Hein. Tout le monde était sous acide, oui.
Tout à fait. Et la fin du film est un peu dans cet esprit-là aussi. Hein, les images sont restées. J'ai vu ce film il y a bien longtemps, et là, je suis plus âgé que vous, je suppose, et de beaucoup.
Ça reste à voir, allez-y. Oui.
Oh oui, mais c'est resté emprunt dans mon esprit à jamais. Hein, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément, cette folie de cette aventure qui partait de quelque chose qui était, je dirais pas normal, puisque c'était une guerre, et une guerre très, très, très terrible, mais c'était une chose que l'on peut circonscrire dans notre esprit pour arriver à quelque chose d'ultra métaphysique, qui était presque absurde, qui dessin d'un homme qui devient une folie pure. Voilà. Et bien chez Moreau, c'est aussi ça. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de dire tout le mal qu'il pense du monde moderne, des médias, du contrôle politique qu'on exerce sur les personnes, du contrôle que peut exercer l'économie sur le monde, du contrôle que peut exercer les bien-pensants, donc la morale également. Tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas que cela. Ça fait partie aussi de quelque chose qui est d'une manière d'interpréter même l'univers globalement. C'est vraiment
question de Géraldine.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de réflexion autour d'une construction, d'une déconstruction, justement, qu'il n'y avait pas de construction de la déconstruction, mais seulement pour établir toutes sortes de réflexions autour de la société, condamner, dénoncer en fait sa
oui.
manière de fonctionner, mais aussi plus concernant l'œuvre de Burroughs, on voit qu'il y a une construction autour du style, on peut parler du cut-up évidemment,
bien
du
sûr.
Fold-in, mais
bien
il y a aussi
sûr.
La construction au-delà de ça d'un mouvement culturel.
Soyons pas trop allusifs, hein, parce que le cut-up et le fold-in désignent des techniques littéraires
voilà.
dont il serait trop long maintenant de rentrer dans le détail, mais enfin, que Burroughs met en place, hein, Gérard
oui,
Georges Lemaire.
Oui, qui met en place avec un de ses amis proches, qui est Brian Gracil, qui est l'inventeur de ces techniques. Mais enfin, je crois que je me suis mal expliqué alors. Quand je faisais le parallèle avec le nouveau roman, c'était pour une raison précise, c'est que chez les écrivains français, il y avait un dessin, hein, il y avait un projet, il y avait une volonté de rupture. Chez Burroughs, il n'y avait pas cette volonté, c'est ça que je tentais d'expliquer. Elle s'est créée au fur et à mesure. Je ne dis pas que chez Burroughs, il n'y avait rien de pensé, bien au contraire. Cette déconstruction s'est imposée à lui, dans un premier temps, par ce qu'il a vécu, et parce qu'il lui venait lorsqu'il tapait sur sa vieille machine à écrire, et puis la réflexion qui en est venue ensuite, et puis les discussions avec ses amis. Toutes les personnes sont passées à Tanger, comme Ginsberg, comme Kerouac, comme Orlovsky et d'autres. Hein, tout ce monde-là, ayant d'ailleurs plus ou moins participé à la rédaction finale du Festin nu. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parti d'un désir de déconstruction, mais que ça en est devenu un, et que cette déconstruction s'est élaborée au fil du temps, et a amené une œuvre, effectivement, extrêmement sophistiquée sur le plan littéraire, extrêmement complexe, comme on le disait tout à l'heure, moins complexe une fois qu'on a compris le mécanisme, parce qu'en fait, ce n'est pas une littérature si compliquée que ça, c'est notre mode de lecture qui refuse cette manière d'écrire, au fond, c'est une espèce de rejet que nous avons des choses fragmentaires, des choses qui créent des sens improbables, qui nous entraînent dans des situations mentales un peu un peu impraticable. Voilà, c'est ça plutôt la situation.
Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la bien-pensance, de l'économie, des médias? Le problème, c'est que l'économie adore, hein, l'économie de marché adore ceux qui contestent l'économie de marché. Hein. L'économie de marché fait une place considérable aux contestataires de l'économie de marché, qui sont des phénomènes de vente. La bien-pensance adore les mal-pensants qui en sont l'alibi et en un sens la raison d'être. Et quant aux médias, ils chérissent les iconoclastes qui les récusent en bloc. Qu'est-ce que Burroughs ou qu'est-ce qu'un lecteur de Burroughs trouve à redire à un système qui est si efficace qu'il se referme sur lui-même, qu'il se replie sur lui-même, et que Burroughs aujourd'hui est un phénomène de librairie tranquillement.
Oui, mais justement, on se devait plus un phénomène, hélas, de librairie. Là,
même plus. Oui.
Aujourd'hui, c'est un écrivain respecté, mais c'est un écrivain moins lu. Ce qui reste, c'est la complexité de ce travail. Tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que notre manière de lire Burroughs nécessite que l'on croie absolument que ce monde est perverti, comme vous venez de le dire très bien, mais en même temps que nous sommes nous les auteurs de la perversion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le système des médias, de la publicité, de la politique, de l'économie qui est mis en cause. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de
on arrive au terme de la conversation, hein, malheureusement. Oui. Allez-y, Gérard-Georges Lemaire, on va finir.
Et juste pour vous dire, pour conclure, c'est ça, c'est une dénonciation plutôt de ce que vit l'être humain à une certaine époque, et celle de la fin du XXe siècle pour lui, parce que Burroughs va mourir peu de temps avant la fin du siècle, et qui aujourd'hui encore se présente un peu sous cet aspect, même s'il y a une évolution, même si le monde a un peu changé. Mais au fond, fondamentalement, c'est ça. Mais ça touche plus à l'être. Donc on peut revenir toujours à cette première comparaison. Dante et Burroughs, ce sont deux mondes qui auront affaire ensemble, même s'ils paraissent antagonistes.
Il y aurait d'autres couples, évidemment, à fabriquer. On aurait pu parler de Ginsberg, de Kerouac et de Tom Waits également. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on entende, puisqu'on arrive au terme de cette émission à votre compagnie, la voix de Tom Waits et de Burroughs. Ain't no sin, hein, ce n'est quand même pas un péché de les entendre et de les aimer, comme vous le faites, Gérard-Georges Lemaire. Merci d'avoir joué le jeu depuis Venise, malgré votre sinusite et l'apocalypse sur place. C'était Apocalypse Now dans les nouveaux chemins. Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir. Your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones.
Pourquoi tout ce papier gâché a essayé d'emmener le beau monde d'un endroit à un autre? C'est la postface atrophiée du festin nu de Burroughs qui pose la question.
Babies down the South Sea tropic zone. Ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones.
Burroughs de Gérard-Georges Lemaire aux éditions Artefacts, c'est paru en 86. The Beat Generation, une anthologie de Gérard-Georges Lemaire toujours aux éditions Flammarion en 2004.